éloignés, ne respectant pas, en fin de compte, la vie des gens qui vont y vivre, quoi. Voilà, donc c'est une demande que je fais. Et puis, on a une deuxième... une deuxième question, mais c'est Jean-Marie. Mais alors, peut-être, je ne sais pas comment tu veux qu'on fasse...
Je vais répondre à la première et puis je répondrai à la deuxième après. La première, moi, je n'ai pas du tout envie, enfin, je pense que tout le monde est d'accord, pour dire que on n'a pas deux villages. On n'a pas le village centre voilà, actuel et puis le village de l'autre côté du pont. Je pense que l'avantage que nous allons avoir avec cette passerelle qui va être construite et qui va justement faciliter le passage vers le village, je pense que c'est très important. Donc moi, je voudrais quand même garder le centre-village et peut-être là, développer des commerces, etc., pour que les gens viennent au village. Parce que si nous créons une école, une crèche, des commerces, nous allons avoir un village à deux têtes. Un village central et le village qui est de l'autre côté du lait. Je trouve ça un peu dommage. Moi, je voudrais faire qu'un seul village et ramener tout sur le centre. Ensuite, la question de la réflexion sur les terrains. Mais vous savez que la commune de Montferrier n'a pas de terrain comme tu peux penser qu'on a partout, du côté de Bayarguet, etc., etc. Aujourd'hui, la distillerie, c'est le seul terrain foncier qu'a la commune de ce côté-ci du Lez. Bayarguet, c'est un projet métropolitain. C'est sur du foncier qui appartient au père, non, qui n'appartient plus au père, qui appartient entièrement à la métropole. Donc c'est un projet métropolitain. Et ensuite, quand tu descends sur l'avenue d'Agropolis pour aller au CIRAD, etc., ce ne sont que des terrains appartenant au père, appartenant à la métropole, appartenant au département. La commune n'a rien. Donc nous, communes, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons une caserne des pompiers. Parce que le terrain sur lequel il y aura la caserne de pompiers appartient à la métropole. Donc nous, aujourd'hui, nous n'avons aucune possibilité de se dire « Bon, ben, nous allons réfléchir à un ensemble possible de logements, d'écoles, de crèches, etc. à cet endroit-là. » C'est pas possible. On n'a rien, donc c'est pas possible.
Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire, d'une part, si c'était ça... prenons par exemple l'exemple de la ville de Montpellier. Je ne sais pas combien, il y a une centaine d'écoles maternelles, il n'y a pas 100 000. Il y a une ville avec des écoles maternelles partout. Comment c'est l'organisation des quartiers qui fait que c'est bien une ville qui existe. Et il y a d'autres villages où il y a plusieurs écoles. D'accord. Donc c'est pas, on ne va pas faire une autre ville, un autre centre-ville ailleurs. Mais ça... Si tu veux, c'est pas simplement un sentiment que tu peux avoir ou que je peux avoir. C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut avoir des gens qui nous donnent leur avis là-dessus, qui nous expliquent comment on fait.
Mais pour faire travailler un urbaniste, encore avoir du terrain. Tu vas pas faire travailler un urbaniste.
Non. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse l'évêché décider de ce qu'il va faire sur les terrains qui lui appartiennent?
Mais c'est pas ça. L'évêché va nous vendre les terrains. Il n'y a qu'à voir ce qu'a acheté la métropole, le terrain de Bayarguet. Je pense que l'évêché l'a fait payer très, 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 très cher.
Ah, mais si la métropole s'est fait avoir, c'est un problème.
Oui, mais
pourquoi
on ne se ferait pas avoir, nous aussi?
Ah ben, à nous de discuter. On sait très bien que la métropole s'est fait avoir, cette histoire-là. Nous, on sait, du coup. Hein, les domaines peuvent d'ailleurs nous donner des tarifs avec plus ou moins 15%, et on négocie à partir de ça, parce que je suis sûr que le tarif que la métropole a payé, il est au-delà des 15%, de la fourchette des 15% que le domaine aurait certainement donné. Là, ils se sont vraiment fait avoir. Maintenant qu'on le sait, que l'évêché peut faire ça, on peut avoir une attitude qui fait en sorte qu'on y gagne aussi, nous, qu'on veut se faire avoir, et qu'on arrive. Et puis l'évêché, et alors il est propriétaire, alors ça veut dire que nous, on laisse tomber ce quartier-là, on fait rien, et on va être tributaire de ce qu'eux vont décider d'y faire.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Bayarguet, il y a énormément de contraintes. Tu as des contraintes d'inconstructibilité à cause de la fonte de Salomé. Tu as des contraintes de bassin de rétention. La preuve, c'est que Sainte-Julie, ça fait des années qu'on cherche à l'agrandir. Enfin, les anciennes municipalités ont cherché à l'agrandir. C'est pas possible parce qu'il faut des bassins de rétention qui recueillent toute l'eau qui descend du Cirral. On a la zone Natura 2000 où on ne peut pas construire. On a le PPRI. Donc, on est quand même relativement coincé. Donc, je ne comprends pas comment on va aller acheter du terrain à l'évêché qui n'est pas du super terrain. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas si vous avez accès au cadastre, mais allez regarder sur le cadastre et vous allez voir que les meilleurs terrains, c'est la métropole. Le reste, l'évêché, il a des terrains en creux, en pente, enfin, c'est compliqué les terrains de l'évêché. Donc, et qui sont dans des zones inconstructibles. Donc, voilà, je ne vois pas, je sais pas.
Je pense juste pour compléter, parce que je pense qu'il y a, un niveau d'incompréhension entre ce que l'on dit et ce que vous comprenez. Donc, ce qu'on veut souligner, c'est que il faut absolument éviter, dans le cas de Bayerguet, la construction petit bout par petit bout. Ça ne veut pas dire que c'est la commune qui va être maître d'œuvre de tous les projets, etc. Sauf qu'il faut une cohérence d'ensemble. Et la cohérence d'ensemble, c'est bien la commune de la dictée. C'est-à-dire que vous pouvez être sûr que si le projet de la métropole ne convient pas à la commune, il pourra être discuté avec la commune, et il sera discuté avec la commune. Sauf que l'insertion de ce projet de la métropole sur la colline, plus l'insertion de la caserne de pompiers, plus la construction de ces nouveaux logements sociaux, plus la déchetterie qui est comme par hasard juste à côté, le problème de voirie et d'axes urbains qui est quand même extrêmement parcouru par les voitures à très haute vitesse. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un environnement plutôt de type village à cet endroit-là. Et comment on va travailler avec la métropole sur la nature des aménagements qui vont devoir être mis en place pour protéger les citoyens qui seront soit sur la passerelle, soit sur les trottoirs en bord de route. Tous ces aménagements-là, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir faire des propositions. Pour pouvoir faire des propositions construites, qui s'instruisent, je dirais, dans un cadre général, il faut, comme je pense l'a souligné Michel, qu'on soit aidé, parce que cette initiative-là, c'est pas quelque chose, même si on a de bonnes idées, c'est pas en mettant des bonnes idées les unes à côté des autres qu'on arrive à construire un vrai projet d'urbanisme. Mais c'est aussi des éléments qui vont nous permettre de négocier avec les différents acteurs qui vont intervenir dans le temps. Et je pense que il devient urgent, de mon point de vue, à faire cette opération-là, pour qu'on ait une espèce de lisibilité sur ce qu'il est possible d'organiser pas sur Bayerguet. Aucunement la commune ne sera en responsabilité de tous les projets, je le comprends tout à fait. Et il n'est pas dit que la commune doit acheter des terrains pour faire des choses, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de savoir comment cette zone va s'urbaniser, à quelle échéance, dans quel délai et avec quel type d'urbanisation. Et ça, c'est de la prospective, et il y a toutes les chances que tous ces projets-là ne voient pas le jour dans le cadre de ce mandat-là, ni peut-être même dans le cadre du suivant. Mais l'avantage d'avoir une ligne directrice, c'est qu'on sait, et les prochains conseils municipaux sauront où on peut aller et auront des éléments de négociation avec différents acteurs. C'est ça. Et une étude de cette nature, surtout si on a négocié avec la métropole de Montpellier, puisqu'elle est partie prenante, ne reviendra sans doute pas très cher et permettra d'aborder toutes ces questions-là. C'est un peu ça l'idée qu'il y avait sous-jacente derrière la demande de réflexion d'ensemble autour de cette zone-là, notamment le grand rond-point de Sainte-Julie, qui est quand même un rond-point qui devrait, dans une zone village, réaménagée. On ne peut pas laisser le grand rond-point comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de passage piéton, c'est très mal organisé. Donc, il va falloir faire toute une série d'aménagements de voirie, et le logement qui va être construit par un métis sur la passerelle, sur la parcelle qui est, dont la promesse de vente fait l'objet de ce point, elle va répartir les habitations de chaque côté de la route. Voilà. Voilà un petit peu ce que l'on dit par rapport au... Il faut prendre de l'avance, c'est un peu ça l'idée. C'est prenons de l'avance sur tous ces projets-là pour essayer d'avoir une idée et essayer de nous forger notre opinion sur si c'est opportun ou pas opportun.
Si ce n'est que moi, je n'ai pas tellement envie de construire Bayerguet. Je ne sais pas si beaucoup de gens autour de cette table ont envie de construire à Bayerguet. Est-ce que vous avez vraiment envie que ça devienne un endroit à Montfermier ?
Je pense que là encore, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Il ne s'agit pas de construire Bayerguet. Il s'agit déjà, dans les projets qui sont dans les tuyaux, et il y en a déjà beaucoup, d'essayer. Ben, il y en a déjà deux, mais urbanistiquement, ce n'est pas négligeable. On est d'accord ? Plus la caserne de pompiers s'en fait un troisième. Et pensez-vous qu'au niveau des centres scientifiques, il y a des terrains disponibles, pensez-vous que la métropole ne va pas avoir à un moment donné aussi envie de valoriser une partie de ces terrains? Il y aura peut-être des demandes de la part des organismes, des instituts scientifiques pour construire des aménagements additionnels, etc. Moi, je pense qu'on ne peut pas se mettre... Il ne s'agit pas de sacrifier des terres agricoles au profit d'urbanisation. Il ne s'agit pas de mettre ça en place. Il s'agit de se faire une idée de ce qu'il est possible de faire sur ce territoire, qu'est-ce qui permet de conserver justement les paysages, les aménagements, qui permet de prendre en compte le risque incendie, le risque inondation, etc. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, je pense que les trois projets au moins qu'on connaît, qui sont d'actualité, hein, plus sans, peut-être un jour l'extension du lycée, donc ça fait peut-être quatre projets, quelque part, ils existent déjà, et ils sont inscrits très fermement dans les choses qui vont arriver. Et c'est à une échéance assez proche. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, enfin moi, je n'ai pas d'idée précise sur la caserne de Pompignan, est-ce que c'est mieux de la mettre là ou là? Est-ce qu'il faut déplacer la déchetterie pour aller la mettre en face? Parce que c'est peut-être une zone qui serait préférable pour la caserne de Pompignan, etc., etc. Voilà des éléments qui peuvent être, à un moment donné, proposés à un urbaniste sur un schéma d'ensemble.
Tu ne peux pas demander, toi, conseil municipal de Montfermier, de déplacer la caserne des pompiers à la place de la déchetterie. Ça a été une étude qui a été montée par le SDIS, et ça fait des mois qu'ils travaillent. Et s'ils ont décidé de mettre la caserne des pompiers à Bayarquet plus haut, c'est parce que l'accès, l'arrivée sur le rond-point, etc., tu ne peux pas leur dire on déplace la déchetterie et il vaudrait mieux se mettre là. Nous n'avons même pas été pris en considération.
Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. D'abord, c'est un exemple. Et deuxièmement, on est bien d'accord sur le fait que vous voyez que chaque projet s'instruit individuellement, suivant ses propres critères, et que les critères globaux ne sont pas pris en compte. Et on est bien d'accord. De même que le projet d'améthyste, il va être construit pour ce projet-là, dans ce cadre-là, et les conséquences de ce projet sur environnemental et d'accès pour les citoyens n'est pas pris en compte. La caserne des pompiers, pareil, le SDIS, il inscrit son projet, de façon à ce que ses besoins soient couverts. Les besoins d'environnement, les besoins d'intégration dans la commune, eh ben, on en prend plus ou moins bien ou moins compte. Voilà, c'est tout. Bon, enfin, après, vous ferez comme vous voulez, c'est vous qui êtes aux manettes.
Bien. Je voudrais compléter en fait, et aller dans le sens des conseillers d'opposition. En fait, il faut comprendre que c'est un sujet, un vrai sujet de cohésion territoriale communale sur lequel nous devrions nous pencher. Ce soir, vous nous proposez un compromis de vente pour un ensemble. Un ensemble, un projet, un futur projet, qui s'ajoute ou qui va s'ajouter à d'autres projets, mais sans qu'il y ait concertation ni réflexion globale et préalable. Alors, ces autres projets, je peux en citer quelques-uns. Vous avez évoqué lors du midi libre du 4 novembre, un nouveau quartier qui pourrait être sortir de terre au tennis ou au stade. Lors du conseil métropolitain de mardi dernier, a été évoqué en point 2 le fameux vallée, dont on sait qu'elle va se dessiner au nord de Montpellier. Et également, le point 89, qui porte sur la concession d'aménagement du hameau de Bayarguet. Peut-être pourriez-vous nous en dire plus d'ailleurs sur ces points particuliers. Donc on voit bien que sont en train de se dessiner des ensembles comme ça qui sont disposés au gré de certains décideurs, le plus souvent la métropole, c'est vrai. Mais ces projets sont décidés sur la commune de Montfermier. Alors, je sais bien que se pose véritablement un problème de démocratie locale. Vous êtes la seule qui nous représentez au conseil métropolitain, et il y a 92 conseillers métropolitains. Vous êtes ultra minoritaire, bien entendu. Et malgré ce territoire de Montfermier, c'est la commune de Montfermier. Et sur cette commune de Montfermier, ce sont les habitants, les conseillers municipaux, ceux qui sont en charge de ce territoire, qui devraient au moins être écoutés, au moins être entendus, au moins pour pouvoir décider de ce que l'on peut y faire. Sinon, on pourrait dire presque qu'on n'est plus en démocratie. En définitive, on vous a élu, enfin, je ne parle pas de moi, hein, on vous a élu, bien sûr, vous êtes majoritaire, mais en fait, vous ne décidez plus rien, si c'est comme ça. Hein, et c'est le conseil métropolitain, dont personne ne sait d'ailleurs quelles sont les compétences, dans la commune, hein, on peut interroger plusieurs habitants, ils ne sont pas au courant des compétences de la métropole antérieures et actuelles, et ces compétences d'ailleurs qui grandissent de plus en plus, et ce serait donc un conseil qui déciderait de tout. Oui, a priori, oui, hein. Mais nous on dit non, on dit qu'on a notre mot à dire, on dit que nous représentons une force, on dit que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons ensemble essayer de faire pencher la balance pour décider de ce que l'on veut sur notre territoire. C'est possible. Moi, je ne m'avoue pas vaincu. Certes, le président de la métropole, les conseillers sont peut-être influents, mais les conseillers municipaux de cette commune doivent prendre leur part, toute leur part, et décider de ce qui doit être fait sur leur territoire. Je crois que c'est important de ne pas lâcher. Alors, si on lâche, on fait comme l'on fait actuellement, bout par bout, hein, je l'ai dit, l'ensemble, alors, à Métis, là, on va avoir quelques, voilà, hein, nouveaux quartiers, peut-être, ça, vous n'en avez pas parlé, hein, bon, vers les tennis et de Vizou, Bayarguet, je ne sais pas, autre part, on va savoir. Bon, voilà, ça, c'était ma question de fond. J'ai une deuxième question, qui est beaucoup plus localisée, hein, concernant ce projet, que je n'ai pas vu dans ce que vous avez proposé là. La question c'est la suivante. J'en avais parlé déjà encore. Avez-vous prévu, ou est-il prévu, une liaison avec la voie verte qui devra être mise en place en 2022 après l'élargissement du pont sur le Lez? Ce bâtiment va être situé là, hein, de l'autre côté de la route de Mende. Il paraît logique quand même que, comme la voie verte va arriver du pont du Lez, que ce lotissement, ce bâtiment, soit voilà, relié, vraiment relié, quoi, hein, pas qu'on fasse un truc comme d'habitude à la va-vite, hein, on ne sait pas trop, hein, non, vraiment. Hein, je pense que c'est important, parce qu'ils sont de l'autre côté de la route de Mende, c'est déjà difficile à traverser, s'ils ne sont pas reliés vers le pont du Lez, c'est-à-dire vers le vieux village, comme vous l'indiquez, ce serait malheureux quand même. Je pense que ça, il faut le prévoir d'entrée, hein, ne pas laisser passer des choses, quoi. Hein. Sinon, on est cuit. Une fois que c'est fait, hein. Vous le savez, ça. Donc, prévoyez, je demande que cela soit prévu d'entrée, que cette liaison avec la voie verte qui va sur le pont du Lez soit actée dès le départ. Voilà. Mais, c'est une petite question par rapport à la question préalable, qui est celle de, bien sûr, de cette cohésion territoriale communale que nous devons, à laquelle nous devons réfléchir ensemble et à laquelle, pour laquelle nous devons nous battre véritablement, hein, parce que, bien sûr, hein, la métropole est plus forte que nous, mais non, après tout, hein, non, il faut résister. Voilà, moi je suis pour résister.
Je vous rappelle juste quelque chose. Je me souviens d'un conseil municipal, vous avez tapé du poing sur la table en disant que nous, si nous continuons comme ça, nous n'aurons jamais la piste cyclable route de Mende et que nous étions en train de favoriser la piste cyclable à Prades. Aujourd'hui, nous allons avoir la piste cyclable route de Mende, et contrairement à ce que vous avez pu dire tout à l'heure, nous nous sommes battus pour avoir la piste cyclable route de Mende, et je pense que c'est une très belle chose qui va se passer. Donc vous voyez que vous êtes en train de dire des choses en disant, je vous rappelle hein, ce conseil municipal quand même, hein, où vous êtes sortis de vos gonds en nous disant que nous étions en train de favoriser la piste cyclable de Prades. Si, monsieur Bord. Oui, il suffit de réécouter.
Bon, arrêtez quand même de dire des choses qui sont inexactes. Quand je me suis battu pour cette piste route de Mende, c'est parce que vous avez opté pour la piste cyclable route de Platine.
Absolument pas.
Je vous ai dit, on ne pourra jamais avoir deux pistes cyclables. Absolument. Il faut se battre d'ex et ombre pour la route de Mende, seulement la route de Mende.
Heureusement que vous êtes là, monsieur Bord. Et heureusement que vous nous donnez des conseils pour gérer.
Oui, c'est au mieux si vous.
Heureusement. Donc, voilà. Vous avez d'autres questions? Vous avez posé vos deux questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre cette convention?
J'ai une dernière question. Et donc, il s'adresse à vous et à Bernard Capot en tant qu'adjoint aux finances. La promesse de vente, si elle s'effectue, sera à hauteur de 465 000 euros. J'aurais aimé avoir de votre part l'engagement que ces 465 000 euros seront réservés sur les logements sociaux, sur la commune, à un projet de logement social. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'on vend aujourd'hui des biens de la commune, qu'on a une énorme problématique de logement social sur la commune avec une amende. Et je pense qu'on s'est posé à plusieurs reprises la question de savoir s'il était possible de préempter les terrains, etc., et que ça avait un coût. Là, si on dégage une enveloppe financière, je pense qu'il serait intéressant, et je vous demande, si vous vous engagez, alors c'est juste un engagement, hein, évidemment, je reviendrai dessus si, pour une raison ou pour une autre, c'était pas suivi, mais je vous fais entièrement confiance, un engagement à consacrer cette somme-là de vente des terrains à un projet, à voir lequel, hein, de logements sociaux sur Montferrier.
Je te laisse répondre, non ?
On peut s'engager oralement.
Oui, hein, non, mais de toute façon, il y a deux façons de s'engager, hein, c'est-à-dire soit tu passes au micro. Pardon. Soit il y a deux façons, hein, soit on met cet argent, on n'encaisse pas et on le dévolue pour payer les pénalités plus tard, ou soit on met cet argent de côté pour éventuellement trouver un terrain où on puisse faire des logements sociaux. C'est ça ta question, hein?
Oui,
moi je pense de toute façon, cet argent, on va pas l'utiliser à autre chose. Je pense que ça va servir, à mon avis, effectivement, pour...
Oui, non, juste, je prolonge ce que je demande, pour que ce soit bien compris. Pour moi, la pénalité du logement social qu'on paye aujourd'hui, c'est le résultat d'une politique depuis fort longtemps, qui a conduit au fait qu'on a un déficit de logements sociaux sur Montferrier. Et donc, cette amende, elle nous est due et on doit la payer collectivement sur nos impôts. D'accord ? À l'inverse, on doit résorber cet écart. Et le fait de réserver cette somme à un projet de logement social, ça veut dire qu'on va continuer à accepter de payer cette amende sur nos impôts. Et que cette somme-là ne doit pas venir en déduction uniquement de l'amende. C'est justement pas ça que je souhaiterais qu'il soit, pour lequel vous vous engagiez, mais que ce soit vraiment vers un projet social, vers un projet de logement social. Et c'est assez différent. C'est-à-dire qu'on aura une charge qui va être celle de l'amende, qu'on va continuer à payer pendant de nombreuses années. Il faut l'inscrire dans notre budget comme un coût de fonctionnement récurrent et issu des politiques antérieures. Et on met en place une politique pour essayer de résorber cette différence. Et on se sert justement de cet argent-là, puisqu'à plusieurs reprises, on avait dit que c'était compliqué de préempter des terrains, c'était compliqué de faire des opérations parce qu'on n'avait pas d'enveloppe financière utilisable. Ben, voilà déjà une première partie d'une enveloppe financière utilisable.
C'est bon.
Ce soir, on a entendu ce que vous avez proposé. Nous allons y réfléchir et on vous tiendra au courant dans la commission d'urbanisme ou la commission de finances à laquelle vous participez, Monsieur Prosper. Nous allons passer donc au vote de ce compromis. Qui est contre ? Deux contre, Monsieur Bord et Madame Gaulin. Qui s'abstient ? Trois abstentions, Monsieur Prosperi, Monsieur Bourelli et Madame Gelsomino. Adopté à la majorité. Alors, le point suivant, ce sont les tarifs du réveillon. Donc, si nous arrivons à organiser le réveillon de la Saint-Sylvestre, ce qui n'est pas sûr du tout, vu l'événement actuel Covid, nous vous proposons d'augmenter les prix du réveillon, parce que cette année, on avait envie avoir une prestation un peu plus élevée pour ce réveillon, en qualité. Donc, il va y avoir un traiteur de meilleure qualité, des spectacles, etc. Donc, on a décidé d'augmenter le tarif, de le passer de 75 à 85 et de 90 à 100. Quoi pour les extérieurs, 85 pour les Montferriérains et 100 euros pour les extérieurs, sachant que à ce réveillon, nous avons quand même une majorité d'extérieurs qui viennent à ce réveillon du 31 à Montferrier. Donc, il nous semblait à tous logique d'augmenter un petit peu pour les extérieurs, parce que voilà, notre argent de la commune. Voilà. Donc, je vous propose ça, 85 euros et 100 euros pour les extérieurs. Avez-vous des questions ?
Est-ce que vous avez une estimation du coût de revient par personne de ce réveillon tout compris ?
Là, aujourd'hui, nous faisons une affaire blanche.
C'est-à-dire 100 euros, c'est le coût complet.
Exactement.
C'est ce que je voulais savoir.
Avez-vous d'autres questions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Nous avons donc fini l'ordre du jour du Conseil municipal. Au niveau information, je voulais vous tenir au courant de l'évolution sur les choix des graphes du pont. Donc, j'avais organisé une réunion à la mairie où je vous avais montré les 5 artistes qui avaient été choisis par la métropole et les votes qui sont sortis de la commission. Je vous les proposais. Donc, nous avions voté le projet de M. Pantone, c'est-à-dire le fameux pont très coloré, enfin très noir et blanc, qui représentait une œuvre d'art dans sa part entière. Et le deuxième projet qui venait derrière, c'est le projet de M. Noto, le fameux graffeur de Montpellier, qui a commencé dans la rue et qui est arrivé aujourd'hui là où il est. Donc ces 5 artistes ont été présentés au président de la métropole, puisque comme je vous l'avais dit, c'est lui qui était décisionnaire sur le choix des graphes. Et M. Delafosse a choisi le projet Noto, puisque il a favorisé plutôt le graffeur de Montpellier et lui donner la possibilité d'exister par une œuvre beaucoup plus importante que ce qu'il a l'habitude de faire. Donc j'ai été informée en début de semaine du choix de M. Delafosse. Donc nous partons sur le projet Noto, que je peux vous faire passer pour ceux qui n'étaient pas à la réunion. Je peux vous montrer les différents projets, je les ai là. Vous pourrez regarder rapidement et vous verrez quel est le projet qui a été choisi, donc le projet Noto. Voilà pour l'information que je voulais vous donner, parce que ça, c'est du début de la semaine. Donc voilà, on va avoir, j'espère, un joli pont. J'espère. Et qu'il ne sera pas abîmé pendant les travaux de l'aménagement, de l'arrivée de la station de la ligne 5, sachant que la métropole nous a assuré que les graphes seraient protégés complètement et qu'il n'y aurait aucune possibilité d'atteinte au moment où on aurait des engins qui passeraient sous le pont.
Ça va se faire quand ?
Là, pour l'instant, on n'a pas de date précise. On n'a pas de date précise, donc je pense qu'il faut que ça soit voté au budget de la métropole. Et ensuite, il va falloir faire ça, je pense, à la belle saison aussi. Et peut-être pas trop chaud non plus. Donc voilà, peut-être au printemps ou peut-être à l'automne. En tout cas, je pense que fin 2022, ça sera fait.
Avant d'aborder les questions diverses, s'il y en a, est-ce qu'on pourrait avoir un point d'information sur la situation Covid aux écoles ? Oui. Ça serait intéressant.
Tout à fait. Dans ce style, si tu veux bien parler de...
Je vous ai tous tenu informés. Je vous ai tous tenu informés, certes par des moyens non conventionnels, mais qui permettaient en tout cas que tout le monde puisse avoir les informations concernant ce que j'appelle une crise, hein, parce que ça a vraiment été comme ça, enfin ressenti comme ça et dû être géré comme ça, vraiment. Les deux écoles réouvrent ce lundi, du coup, les services périscolaires également, cantine et garderie du matin et du soir, les services extrascolaires également, espaces jeunes et centres de loisirs, avec très certainement un nouveau protocole qui a été dévoilé par le ministre de l'Éducation nationale ce midi.
De la santé.
De l'éducation nationale. l'éducation nationale ce midi, c'est-à-dire que désormais, en cas de cas positif dans une classe, les classes ne fermeront plus, les enfants seront testés et seuls les enfants positifs n'iront pas à l'école et les autres pourront réintégrer la classe. Je m'interroge beaucoup sur la pertinence de ce protocole, bien que je n'ai pas les compétences médicales, scientifiques que peuvent avoir certainement les personnes qui l'ont rédigé. Je m'interroge parce que je pense que ça ne va pas fonctionner. Mais bon, on va avoir des cas, ça c'est sûr, ça va se multiplier, et on ne fermera pas les classes, et on mettra encore les élèves ensemble, et voilà. Ce n'est que mon avis, mais bon, il faut assurer une continuité pédagogique, je l'entends, je n'ai pas de soucis sur ce point. Le personnel municipal est négatif, suite à des tests qui ont été réalisés. Donc c'est pour ça que nous pouvons rouvrir tous les services périscolaires. Nous allons attirer leur attention une nouvelle fois sur le respect des gestes barrières, le port du masque, faire attention, la distanciation, vraiment tous ces points. Nous allons ne plus brasser à la cantine, puisque nous avions réautorisé le brassage au niveau de la cantine. C'était une demande des parents. C'est vrai qu'avec l'amélioration de la situation en début d'année, nous avions estimé qu'il était possible de le faire. Nous allons revenir du coup à des choses un peu plus strictes, moins rigolotes pour les enfants, j'en conviens. Donc plus de brassage et plus de brassage dans les cours de récréation également. Voilà la situation à l'heure.
Ce qui a été mis en place au.
Ah oui, et aujourd'hui effectivement, excusez-moi, j'oubliais ce point. Nous avons été sollicités par une infirmière libérale qui avait été approchée par plusieurs parents pour dépister des enfants et qui nous a demandé si nous étions intéressés pour mettre en place un endroit dans la commune où, avec des collègues professionnels de santé à elle pourrait procéder au dépistage, ce qui les arrangeait aussi puisque les parents venaient directement dans ce point de dépistage. Naturellement, nous avons répondu favorablement à cette demande en mettant à disposition le Devezou, le hall du Devezou. Aujourd'hui, nous avons eu donc une journée de test de 8h à 18h et elle se poursuit demain de 8h à 17h. Aux dernières nouvelles, sur 100 enfants testés, 3 étaient positifs. Je n'ai pas eu d'autres de nouvelles depuis, je vais en demander après le conseil municipal pour voir s'il y a eu d'autres cas qui s'avéraient positifs. Je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous avez des questions?
Je vais peut-être enchaîner puisque c'était ma question diverse, donc comme on est sur la thématique, autant compléter, merci Steve pour ces précisions. On a eu des remontées évidemment des parents, je comprends tout à fait qu'on était en situation de crise et voilà, et on a échangé pendant cette période, parfois un peu abruptement, mais notre regret quand même, c'est un problème vraiment de communication. Les informations sont passées par les réseaux informels, le WhatsApp, Montferrier Power, merci parce qu'on a beaucoup d'informations par ce WhatsApp, par des échanges dans le village, par beaucoup de questionnements de la part des parents inquiets et on le comprend. Bien avant l'utilisation, je parle des canaux administratifs mais pas que, les échanges de SMS entre nous. Plusieurs fois, nous avons demandé à ce que la commission scolaire soit réunie, ne serait-ce que de manière en Zoom. L'idée n'était pas d'embaudiser au milieu de la crise, mais bien justement d'apporter un soutien et de travailler à plusieurs, à la fois sur la communication et sur ce qui était mis ou pas en place. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une grosse marge de progression dans ce fonctionnement. On a eu pas mal d'inquiétudes, ne serait-ce que sur les informations parcellaires. Est-ce que les tests étaient obligatoires? On a reçu un message, une attestation sur l'honneur suffirait apparemment pour pouvoir remettre aussi les enfants en classe. Le coût des tests, où pouvoir les faire. Enfin, des questions complètement pratiques, mais d'inquiétudes de parents quant à la gestion de cette crise. Et je pense que de travailler de concert aurait peut-être permis aussi de pouvoir dépoler Steve dans cette gestion et apporter notre soutien. On est là comme conseillers municipaux pour travailler aussi et pas uniquement pour se prendre des boulets. Donc voilà, c'était ma remarque ce soir.
Je pense qu'en termes de communication, et excusez-moi si je me trompe, je ne pouvais pas faire mieux. Enfin, tous les conseillers municipaux ont été informés en temps et en heure au moment où les choses se passaient. J'ai beaucoup de difficultés parce que ce qui se dit Montferrier Power, je connais, ce qui se dit sur Montferrier Power, ce sont des rumeurs. Les gens se posent peut-être des questions, mais les gens affabulent aussi, les gens inventent sur ce groupe. Ce n'est pas de la communication officielle, ce n'est pas une communication mairie. Donc j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Que les gens s'interrogent, je le comprends, mais nous avons communiqué depuis la semaine dernière, nous devons en être à 10 mails envoyés aux parents depuis les réseaux officiels de la mairie. Je pense qu'on peut difficilement communiquer plus. Après, sur le fait de réunir la commission, je te rejoins, j'aurais pu effectivement le faire. Je vais t'expliquer pourquoi ça n'a pas été fait. Nous nous sommes vus le jeudi matin, tu te rappelles, à l'école. Je gérais ça depuis la veille avec Brigitte, qui, pour le coup, était à Paris. Et moi, je devais ce jour-là partir à Paris. J'ai annulé mon départ à Paris et je suis parti finalement le soir pour le Luxembourg. Donc dans le train, avec les problématiques de réseau que l'on connaît quand on est dans le TGV. Donc voilà, je t'avais dit en plus que je proposerai un Zoom le jeudi soir. Je ne l'ai effectivement pas fait. Et après, le vendredi, j'ai alterné entre ma journée professionnelle et la gestion en parallèle des relations avec Madame le maire, avec les directrices d'établissement, ce genre de choses. Je suis rentré sur mon férié le samedi à 16h et j'ai estimé que la situation était gérée pour le moment et que je n'allais pas vous contraindre avec une réunion un week-end Zoom alors que je vous avais fait passer toutes les informations. Voilà.
Et puis ce qu'il faut dire aussi...
C'est pas tant mieux, je dis que c'était pas suffisant. La crise, elle est là depuis 15 jours. Et il y avait moyen, je sais qu'en fin de semaine, tu étais occupé, mais il y avait moyen quand même de se coordonner. Peut-être que pour l'avenir, on peut essayer de faire mieux.
Céline, dans ce genre de situation, et je vais aussi remettre les choses à leur place, les discussions typiquement qui ont lieu avec les autorités compétentes, que ce soit avec le préfet, que ce soit avec l'ARS, que ce soit avec le DAZN, c'est des discussions que Brigitte a eues seule avec ces personnes. Je n'étais pas là. Je ne faisais que de transposer après ce qui avait été décidé. Donc dans l'urgence, les choses se font forcément vite, en petit comité. Je n'ai pas le sentiment que nous ayons failli à quoi que ce soit et je maintiendrai et je défendrai tout ce qui a été fait pendant cette période. Plus d'informations, comme je te l'ai dit, je ne vois pas comment. Réunir la commission pour vous dire ce que je vous ai dit sur des SMS. La prochaine fois, on vous enverra des lettres recommandées avec la piste de réception. Comme ça, vous les recevrez encore plus tard. Il n'y a pas de souci. S'il faut utiliser des moyens légaux de communication, j'ai pas de problème.
Enfin, et puis, il faut dire aussi que les informations, on les avait au compte-gouttes.
Oui.
Parce que ce n'est pas la commune qui est décisionnaire sur la fermeture d'une école. Donc, nous, on avait les remontées des directrices nous disant, il y a un parent qui nous a appelé, qui a un Covid, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et il fallait se référer automatiquement et tout le temps au DAZN, à la préfecture. Donc, nous, les informations, elles arrivaient au compte-gouttes. Quand on nous disait, attendez, vous fermez qu'une classe, on disait, on ferme qu'une classe. On a annoncé à certains aux parents qu'on fermait qu'une classe. Puis, 3 heures après, le sous-préfet ou le préfet qui vous appelle en vous disant, on a réfléchi, finalement, vous avez 3 classes, donc il faut fermer l'école. Donc, nous n'avons pas été maîtres dans cette situation parce que la mairie n'a rien à voir avec l'école. Donc, on attendait que les décisions soient prises, si ce n'est qu'au bout d'un moment, quand nous avons eu dans chaque école la moitié des classes contaminées, puisque ça a été à un moment donné comme ça, je me suis dit, j'en ai parlé avec Steve et je lui ai dit, maintenant, c'est du bon sens. Il faut qu'on ferme cette école parce qu'on va créer des clusters et tout le monde va se contaminer. Donc, j'ai pris contact à ce moment-là avec le préfet directement et c'était un samedi à 18h. Le préfet a décroché Et voilà, je lui ai expliqué la situation, la problématique, ma réflexion, et je lui ai dit, monsieur le préfet, dites-moi ce que je dois faire, parce que ce n'était pas à moi de prendre cette décision. Que fait-on? Parce que nous devons prévenir les parents. Et madame le maire, je vais réfléchir, je vais prendre contact avec le DAZN, l'ARS, etc. Et il m'a rappelé à 21h en me disant, madame de Voissel, on ferme l'école. Bon, c'est pour ça qu'au milieu de tout ça, faire une commission, enfin réunir la commission, les gens vont vous dire, ah ben non, je ne suis pas disponible, non, mais ça sera 19h, 18h. Non, on avance au fur et à mesure. Et voilà. Alors après, que maintenant, aujourd'hui ou cette semaine, on fasse une réunion de commission et qu'on vous fasse un retour de la gestion de cette crise, ça, je suis tout à fait partante. Il n'y a aucun problème. Mais au moment où ça se passe, eh ben, excusez-nous, mais ni Steve ni moi ne sommes des spécialistes de la Covid, de la gestion de crise dans les écoles, de la fermeture, de l'énervement des parents, de l'énervement et l'agacement des directrices, etc. Et voilà, donc du coup, on a géré au fur et à mesure, et je pense qu'on l'a très bien géré, parce que les parents, dans l'ensemble, ont été très contents, et les enseignants et les directrices des deux écoles ont été aussi très contentes. Donc là, vous voyez, demain, normalement, vendredi, l'école élémentaire devait rouvrir, puisque c'était 7 jours de fermeture, donc ça devait rouvrir. Là encore, il m'a semblé inopportun de rouvrir juste pour une journée l'école élémentaire, sachant que nous avons beaucoup de fratries dans les écoles. Donc on va avoir l'aîné qui va venir à l'élémentaire pendant que le frère ou la sœur en maternelle est Covid. C'est ridicule. Donc, à nouveau, en contact avec la préfecture, monsieur le préfet, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Ne serait-il pas plus judicieux, etc., etc. Et j'ai eu la réponse, oui, ça ferme vendredi et les deux écoles rouvriront lundi, ce qui paraît logique. Les deux écoles rouvrent ensemble, on remet en route la cantine, les classes auront été nettoyées, la cantine nettoyée à fond, enfin, voilà, et on repart sur une vie normale, une vie scolaire normale. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué de... Et je pense que regarder partout les gestions de crise, c'est vraiment... il faut réagir très, très vite. Et c'était en train d'exploser à l'école. Donc, le temps de prendre le temps, plus, c'est vrai que...
C'était pas nous qui étions des décisionnaires, c'est surtout ça. Enfin, nous, on faisait l'intermédiaire on soutenait une position des directrices d'établissement qui nous demandaient une fermeture des écoles parce qu'elles s'apercevaient que la situation était de plus en plus critique. Auprès des autorités compétentes, comme Brigitte vient de l'expliquer, mais la décision finale ne nous revenait pas à nous, parce que c'est sûr que si ça avait été le cas, on l'aurait fait bien plus tôt et on aurait décidé une fermeture unifiée pour les deux écoles en même temps.
Et les parents nous ont remerciés, hein, parce que finalement, je pense qu'il a été plus simple pour eux de gérer une semaine de fermeture. On s'organise sur toute la semaine plutôt que mettre l'enfant le lundi, puis le mardi apprendre que la classe est fermée, et puis ou le mercredi. Enfin non, c'est compliqué.
Juste une question, une précision à demander. C'est une gestion de crise. Évidemment, quand on se trouve au niveau du gouvernement, gestion de crise, on a des gens qui sont là, payés pour faire ça, etc. Et donc c'est plus facile parce que ce sont des professionnels, évidemment, qui ont plus d'informations et tout. On n'a pas affaire à des gens comme ici qui sont des personnels bénévoles. Enfin, je ne considère pas l'indemnité comme un salaire, on est d'accord. Quid du DGS dans cette histoire?
Ah mais le DGS, il a été présent.
Oui.
Nous étions trois, le DGS, le responsable de la commission scolaire, des agents scolaires, et moi.
Donc c'était la cellule de crise.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, le DGS a été présent, hein, aucun problème. Oui, il a été présent.
Oui, on vous a parlé là du pouvoir, enfin des décisions. Après, sur le côté opérationnel, effectivement, le DGS a fait
la réglementation et tout ça, le juridique, voilà, il était présent aussi. Le personnel, comment on gérait le personnel, etc., etc. Donc, on était à trois à gérer ce moment un peu compliqué dans les écoles. Donc, au niveau questions diverses, vous avez posé votre première question. Votre deuxième question?
Oui. là-dessus. Avant de poser cette question, on était sur les informations.
Oui.
Vous pourriez faire un point sur les robes qui étaient installées au rocher de l'hacienda ou ça?
Oh oui, si vous voulez, je peux vous faire un point. Les robes ne sont plus du tout installées au rocher de l'hacienda. Ils ont laissé leurs 6 caravanes. Il y en a une qui est partie, donc il n'y en a plus que 5. Et a priori, je suis en relation avec la brigade de Clapiers et la police municipale. Il n'y a plus de vie sur le terrain de l'impasse des abeilles. Donc on peut espérer que tout est rentré dans l'ordre, mais il serait bon que ces caravanes disparaissent quand même. Voilà.
Merci. La deuxième question que vous voulez poser concernait le congrès des maires qui a eu lieu à Paris dernièrement. Bon, là, j'ai appris parce que M. Capot et Dupont nous ont informé de l'annulation de la commission d'urbanisme. Souvent annulé parce qu'il n'y avait pas de dossier, ce que je comprends, parce qu'ils étaient au congrès de l'AMF, donc l'Association des maires de France. Je pense que d'après ce que dit Steve, que vous y étiez également, Madame le maire, si vous étiez à Paris. Quoi qu'il en soit, puisque certains membres du conseil s'y sont rendus, pouvez-vous nous dire ce que vous en avez retenu pour manquer commune? Et ça, et puis, si vous le souhaitez d'ailleurs, et si les frais sont imputables au budget communal, combien cela engendrer à côté pour notre commune, bien entendu.
Je ne supporte pas vos questions qui sont suspicieuses comme ça, monsieur Bord.
Madame, il y avait une suspicieuse.
Mais si vous demandez si les frais d'hôtellerie, de restauration, oui, de transport, etc., ont été pris, mais normalement, vous savez que les maires et certains adjoints, ou tous les adjoints, même s'ils veulent aller au congrès des maires, tout est pris en charge par la commune, hein, par la mairie. Hein. Renseignez-vous. Donc, renseignez-vous et vous sauriez que c'est un déplacement normal pour un maire d'aller au congrès des maires. Donc, tout peut être pris en charge par la mairie. Il s'avère que Madame de Voissel, elle n'a rien fait prendre en charge par la mairie. Elle a tout payé de ses propres deniers, sauf, je tiens à le préciser, l'inscription au congrès des maires. J'ai jugé que je pouvais demander à la mairie de me payer l'inscription au congrès des maires. Sinon, mon transport, mon hôtel, ma restauration, j'ai tout payé de mes propres deniers. Donc ça, c'est une première chose.
Idem pour nous. Hein.
Ainsi que les adjoints, bien entendu, parce que je tenais à ce que nous ne devions rien à la commune. Rien. Bien. Donc ça, c'est une chose.
On a tout payé, excusez-moi.
Et puisque c'est légal, je ne comprends pas pourquoi vous avez dit ça.
Parce que je n'avais pas envie, ouais. Voilà. Parce que voilà, nous avons des questions. Voilà, nous avons des questions de ce style. Combien avez-vous payé, etc.
Mais c'est normal que vous l'indiquiez.
Voilà.
C'est légal.
Mais oui, mais je ne vois pas l'intérêt de poser cette question, monsieur Bob.
C'est légal parce qu'il doit y avoir un tableau où vous devriez indiquer d'ailleurs vos indemnités pour les maires adjoints et conseillers délégués, en tant que conseiller métropolitain et en tant qu'indemnité diverse. Oui. C'est la légalité. Je n'y peux rien, madame.
Non, mais je sais bien.
Je ne pose que des questions qui sont normales.
Bien,
si vous n'acceptez pas cette normalité, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher.
Oh, monsieur Bord.
Voilà.
Donc je ne répondrai pas à votre question. Question suivante. Question suivante, monsieur Bord, qui n'est pas d'ailleurs une question. Hein. L'éclairage public, ce n'est pas une question, hein. C'est un état de fait.
C'est une information.
C'est une information. Donc ce sont des questions diverses que vous devez poser.
Oui,
avez-vous une question sur l'éclairage public?
Oui, la question, comme vous le savez, donc, nous allons faire paraître dans le prochain conseil municipal une annonce concernant une enquête sur le site Montferry-Ensemble concernant l'éclairage public nocturne. Cette enquête, comme je l'ai indiqué, a émergé après des résultats décevants qui ont suivi la COP26 et suite à partir du lundi 25 octobre de l'extinction nocturne partielle de l'éclairage public sur cette autoroute de la métropole. Également, ce qui nous a sensibilisés, c'est qu'en cette année 2021, notamment le quartier des Aiguillères, la rue des Platanes, ainsi qu'une grande partie du village, sont restés longtemps sans lumière la nuit. Afin, nous avons appris également connaissance de l'enquête menée par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat Montpellier Métropole, en 2016 sur les consommations annuelles pour l'éclairage public, où Montferry est en tête. Toutes ces raisons conjuguées nous ont amené à proposer cette action concrète que nous vous demandons donc de relayer le plus largement possible toutes et tous. Au premier trimestre 2022, après avoir réceptionné les réponses, traité l'information, nous ferons part des résultats de cette enquête. Madame la maire, il vous appartiendra alors au titre qui le vôtre, à savoir au titre du pouvoir de police, bien sûr, de donner suite ou non à cette action menée sur la commune auprès des habitants Il nous apparaît en effet essentiel d'agir au niveau local à un moment où notre terre est en danger et nous nous devons de protéger nos enfants et les générations futures. Donc la question était simple, c'est voilà, de nous aider, de participer, de divulguer toute cette information afin que cette enquête soit le plus large possible. Voilà, je vous en remercie.
Je vous remercie, M. Bor. La séance est levée, il est 21h07. Pas du pied dans le village, hein. Ah bon. Pourquoi tu veux?